Merci beaucoup pour cette introduction inattendue. Donc, merci pour l'invitation. J'ai été très intéressée par ce que j'ai entendu ici aujourd'hui et avant-hier. Je dis ça parce que hier, malheureusement, je ne pouvais pas être là. Alors, je suppose qu'au départ, quand vous avez eu l'idée, enfin, quand Isabelle a probablement eu l'idée de m'inviter, c'était parce que justement, je vis loin d'ici depuis maintenant 10 ans. Donc mon expérience de l'immigration, je me considère pas comme une exilée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de politique dans le mot d'exil, mais simplement comme une immigrée. Donc cette expérience-là, je commence à l'approfondir. Mais l'auto-exégèse me semble peu féconde, donc j'ai décidé de profiter de cette invitation pour vous parler de Fernando Arrabal, qui est vraiment un des auteurs que j'aime et pour des raisons aussi autobiographiques et intimes. Donc seule mon introduction sera autobiographique. Pour faire court, Arrabal, c'est l'auteur préféré de mon père, qui est metteur en scène de théâtre, et c'est l'auteur des premiers textes littéraires avec lesquels j'étais en contact, notamment Fando Ellis, une pièce magnifique que je vous recommande si vous ne la connaissez pas, et Baal Babylon, qui est son premier roman, paru en 1959, et que mon père a adapté au théâtre en 87, dans lequel j'ai joué mon premier rôle sur les planches. Ma carrière s'est arrêtée très tôt. Donc c'était un extrait qui s'appelait « Esprit militaire nul ». Et j'étais déguisée en Arrabal avec une barbe et un chapeau melon. Voilà, donc Fernando était venu voir le spectacle. Il est revenu souvent par la suite. Et 10 ans plus tard, il a accepté de préfacer mon premier roman. Voilà, ainsi s'achève mon introduction autobiographique. Alors, depuis que l'autofiction est devenue un objet d'étude, je me suis toujours étonnée qu'on n'y associe pas spontanément Fernando Arrabal. Peut-être parce qu'il a été stigmatisé par une certaine critique des années 60-70, rangé du côté du théâtre essentiellement, du côté du théâtre panique qu'il a donc créé avec Jodorowsky et Topor notamment, associé souvent à la provocation, à l'outrance, à la veine potache de la pataphysique, dont il est un transcendant satrape. Et je n'ai jamais reconnu mon Arrabal dans ces lectures qu'on en faisait. Peut-être parce que donc, mon père le montait de manière dépouillée, humaine, presque réaliste. Et ces personnages, donc, loin des clowns qu'on décrit habituellement, m'apparaissaient sensibles à des humains blessés, pleins de grâce. Alors, c'est la première ambition de cette communication, c'est la mission que je me suis donnée, c'est lire Arrabal à la lumière de Dubrovski, qui lui rend, il me semble, une universalité qui lui fait défaut souvent. Mon second point, c'est de faire dialoguer deux textes, donc deux livres écrits à 40 ans d'intervalle, donc Baal Babylon, son premier roman, et sur le même sujet, Portée disparue, qui est sorti en 2000, et de montrer à quel point l'un fait écho à l'autre, et même l'un reprend l'autre, on verra à quel point. Il le cite largement, j'en suis même venue à faire un petit peu de génétique textuelle, pour faire plaisir à Isabelle, peut-être. Voilà, donc ce sont deux livres qui parlent d'identité, d'exil et d'histoire familiale. Et si vous voulez, il y aurait le même lien, me semble-t-il, entre ces deux livres qu'il peut y avoir entre l'amant et l'amant de la Chine du Nord de Duras. Alors, d'abord, donc, parler de Baal Babylon, qui est la fondation d'une auto-mythologie et la poétisation d'un conflit familial. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Fernando Arrabal. Elle apparaît pour la première fois dans Baal Babylon. C'est une sorte de longue lettre écrite à sa mère par un jeune homme qui est au sanatorium en train de traiter sa tuberculose. Il se trouve que ce sanatorium, dans la réalité, est en France. Dans le livre, on ne dit jamais où il se trouve. On sait juste qu'il est hors de l'Espagne. Alors il va revivre son enfance par bribes et chercher le fantôme d'un père disparu. Le père d'Arrabal a été arrêté le premier jour du coup d'État espagnol en 1936. Et il a été condamné à mort, puis sa peine a été commuée en réclusion perpétuelle et il a pu s'évader d'un asile psychiatrique en 1941. Et il y avait un mètre de neige dehors et on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu à partir de là. Donc la mère avait toujours prétendu que ce père était mort. C'est-à-dire qu'à partir de 36, Sarah Ball pense qu'il est orphelin. Alors, ce roman, écrit en France et en français, au tout début de l'exil d'Arabal, évoque l'Espagne franquiste des années 40 et fait à la fois l'éloge et le procès de la mère, de cette mère qui lui a menti. Donc, et cette mère dont on comprend assez vite combien elle est liée symboliquement et politiquement à la patrie. Belle Babylone répond donc à tous les critères qui font une autofiction selon Dubrovsky, sauf un, le narrateur n'est pas nommé, jamais. En revanche, dans l'adaptation qu'il va en faire au cinéma, Viva la Muerte, le héros du livre, le petit garçon, va s'appeler Fando. Donc on a toujours ce diminutif qui est donc le double enfantin de Fernando. Et le roman commence par ces mots qui scellent le pacte autobiographique, c'est Fernando Arrabal Ruiz, mon père. Ce sont vraiment les premiers mots comme un titre du premier chapitre. Donc c'est le père, ce fantôme, qui va sceller le pacte autobiographique du roman. Arrabal se définit comme un desterrado, c'est-à-dire sans terre, exilé. J'ai lu ce matin encore un entretien qui date de 2000 dans Libération, à l'époque de la sortie de Portée disparue, où il dit « Je ne suis pas un géranium, je n'ai pas de racines ». Donc il est arrivé en France en 1955, il a épousé une Française, Luce Moreau, qui lui permet d'écrire en français, dit-il, c'est-à-dire qui va contribuer à traduire beaucoup de ses textes et à faire en sorte qu'ils sortent en premier lieu en langue française, c'est le cas de Belle Babylone. Et il me semble, en lisant Belle Babylone et en le comparant à Portée disparue, que le fait que ce soit une langue française qui est jeune dans l'esprit de l'écrivain contribue probablement à la grâce, à la beauté épurée de cette langue. J'ai fait un peu l'expérience d'essayer d'écrire des rédactions en tchèque quand je vivais à Prague. Et ma conclusion, c'était en tchèque, j'ai 5 ans. Et maintenant, j'ai 6 mois, hein, j'ai tout oublié. Mais je pense que dans la pureté de cette langue d'Arabal, il y a quelque chose, la naïveté de l'enfance, qui découvre aussi une langue dans laquelle il n'est pas complètement... il n'est pas savant. Voilà. Donc, les figures centrales de cette automythologie vont d'abord être le père et la mère, protagonistes donc de cette histoire douloureuse des origines, histoire qui va être comparée à un supplice chinois à la fin de Portée disparue. Je vous le lis tout de suite, peut-être, ce supplice chinois qui nous place du côté... il dit « L'histoire, cette marâtre, nous a fait vivre ce supplice chinois. La légende raconte un supplice chinois, les victimes étaient deux amoureux, ou deux esclaves en fuite. Le bourreau les enchaînait, leur mettait des fers aux pieds qui les liaient l'un à l'autre et les déposait au plus profond d'un puits que l'on scellait. Au bout de plusieurs mois, quand le bourreau ouvrait le puits, les restes des victimes mortes entre-dévorées, tout au fond, servaient de pâture aux vers nécrophages. La guerre civile, l'histoire, cette marâtre, nous a infligé à toi et à moi ce martyr. » Donc la figure de la mère avec qui il va s'entre-dévorer pendant ses deux livres et puis pendant une bonne partie de son œuvre, elle va traverser donc toute l'œuvre d'Arabal. C'est une femme qui est très belle, qui est très sensuelle et qui est une fervente catholique. C'est les caractéristiques essentielles qu'on a à son propos. On saura à la fin de Portée disparue qu'elle s'appelle Carmen. Et le personnage donc, de cette mère va être omniprésent dans le grand cérémonial, dans l'être d'amour, dans les deux bourreaux, dans beaucoup d'œuvres d'Arabal. Elle est à la fois aimante à la folie, complètement sacrifié, revendiquant son sacrifice, n'arrêtant pas de dire « mais comment pouvais-je faire autrement ? Qui mieux que moi t'a aimé ?» et jusqu'à obliger son fils à l'embrasser et à lui dire « pardon, pardon, je t'ai mal jugé, oui, tu as été une bonne mère », elle exige qu'il lui dise « tu as été une bonne mère ». Et en même temps, donc, c'est elle qui a fait disparaître la figure du père. Et on va découvrir à mesure dans les deux romans à quel point c'est elle qui s'est débarrassée de la figure du père et elle somme l'enfant de ressembler à une figure masculine digne et en même temps en l'empêchant de ressembler au père. Et elle ne remplace jamais la figure paternelle car elle ne veut pas donner un beau-père. Voilà. Donc c'est elle qui va faire place vide autour de l'enfant, le laisser être le seul homme de la maison. C'est fictionnel, hein, dans la réalité, Arabal a un frère. Voilà. Mais ça, dans les livres, ça y est pas. Donc il doit être fort et obéissant à la fois. Donc il y a cette espèce de paradoxe sans cesse, qui est aussi celui de la patrie, hein, c'est-à-dire il faut incarner la force et en même temps être obéissant. Alors la relation à la mère est d'une nature puissamment sadomasochiste, c'est un rapport de force, de chantage affectif, et... Dans Belle Babylone, la mère a un double fictionnel, qui est la tante Clara, qui va être un personnage du film Viva la Muerte aussi. La tante Clara est une bigote hystérique qui demande à son neveu de la fouetter alors qu'elle est nue, pour expier ses péchés. Elle l'oblige à aller se confesser. Voilà. C'est un personnage très fort, très caricatural aussi. Et ce personnage, donc, qui est repris dans le film, va être complètement... absent de la version de Portée disparue. Et de la même manière, le narrateur qui a une sœur dans Belle Babylone n'en a plus dans Portée disparue. Le deuxième personnage mythique de Fernando Arrabal, donc de ses deux livres, mais de toute son œuvre, c'est le père. Alors, le père apparaît sous trois formes dans le livre. D'abord, il apparaît sous forme d'un souvenir, qui est toujours le même, qui est ressassé, qui apparaît 10 fois dans Babylone et 12 fois dans Portée disparue, c'est, je vous lis la première version, puisque c'est la première page du livre. « Un homme enterrait mes pieds dans le sable. C'était sur la plage de Mélilla. Je me rappelle ses mains contre mes jambes. J'avais 3 ans. Tandis que le soleil brillait, le cœur et le diamant éclataient en innombrables gouttes d'eau. On me demande souvent ce qui a le plus d'influence sur moi, ce que j'admire le plus. » Et alors, oubliant Kafka et Lewis Carroll, le terrible paysage et le palais infini, oubliant Gracian et Dostoevsky, les confins de l'univers et le songe maudit, je réponds que c'est un être dont je parviens seulement à me rappeler les mains contre mes pieds d'enfant, mon père. Alors, ce souvenir est donc répété comme une prière. Et ça devient finalement, ça finit par forger une figure tutélaire, une figure presque un dieu. Hein. Le père devient vraiment le modèle de l'enfant. Alors, il apparaît aussi, ce père, à travers les récits de la mère. Et les récits de la mère, évidemment, le décrivent toujours comme un homme fou. Un homme qui était à la fois un militaire qui a été condamné pour rébellion. Un peintre, comment peut-on être à la fois peintre et militaire dans l'Espagne de 1936, quelqu'un qui a compromis sa famille, qui a tenté de se suicider en prison, bref, un lâche. Elle jette toutes ses lettres, elle jette les jouets qu'il envoie depuis la prison pour son fils. Donc elle lui en donne la pire image qui puisse être donnée. Enfin, ce père apparaît dans les documents d'archives très nombreux que Arrabal va aller chercher dans les prisons espagnoles que son père a fréquentées. Et donc, c'est à travers ces documents qu'on va, nous aussi, se forger une autre idée de ce personnage-là. Et on va imaginer que peut-être la version de la mère est fausse. Et enfin, le père apparaît à travers une pipe dont Arabal assume parfaitement le symbole phallique. C'est une pipe Dr. Plum que la mère avait cachée dans un cagibi. Et donc, le narrateur fume cette pipe de son père depuis son exil au sanatorium. Donc, fumer au sanatorium, c'est encore toute une autre... notre symbole, mais voilà. Donc, la patrie du narrateur, ça devient cet endroit hors de l'Espagne, quel qu'il soit, où il peut fumer la pipe de son père, tranquille, et écrire à sa mère pour lui demander des comptes. Alors, cette tentative de réappropriation de son histoire va passer par la réminiscence et la recréation des souvenirs. On a quand je dis une auto-mythologie, c'est Arabal essaye de s'écrire une histoire à laquelle il va s'identifier. Et évidemment, l'écriture devient la vraie patrie. L'auteur explique dans Portée disparue, donc qui est sorti en 2000, qu'il a décidé de s'exiler après avoir découvert donc, les documents secrets qui attestent que sa mère lui a menti, et que non seulement elle lui a menti à lui, mais qu'en plus elle est allée écrire au directeur des prisons où était enfermé son père, pour leur demander de ne pas le laisser sortir, pour leur demander instamment de l'interner en asile psychiatrique. Donc elle a tout fait, elle a témoigné contre lui à son procès. Enfin, je veux dire, donc quand il découvre tout ça, il décide à ce moment-là de quitter l'Espagne. Et donc plus tard, lorsqu'il va consulter les archives, qu'il tombe sur ces nombreuses démarches qu'a fait sa mère, il décide de ne plus rentrer en Espagne. Et ce n'est qu'en 67 qu'il va être enfin, j'ai envie de dire, arrêté par la police espagnole. Et que cet arrêt... Et cette case prison dont il se moque encore aujourd'hui va faire de lui vraiment un écrivain exilé. C'est-à-dire qu'il n'est plus là seulement comme un immigré parce qu'il a épousé une Française, mais il est là parce que le régime franquiste l'a enfin arrêté. Donc ça, c'est 67. Dans Portée disparue, il y a comme une volonté de fabriquer une histoire de l'écriture de son exil. Portée disparue va faire d'Arabal un personnage d'écrivain exilé politique. C'est-à-dire qu'il va reprendre tous les documents qu'il a écrits sur son père. Il va reprendre lui-même toutes les pièces, tous les romans qu'il a écrits autour de ce père et de sa disparition. Et il va les classer. Et c'est un dossier. C'était vraiment un dossier sur la disparition du père. À tel point que chaque chapitre est une republication chronologique de quelque chose qui a été fait sur le père. Alors on commence par une recontextualisation historique. Le même souvenir donc, du père qui enterrait les pieds dans le sable. Et puis, le chapitre 2 republie les documents qu'il a trouvés à 15 ans. Donc, ce sont des documents qui vont être publiés en caractère courrier pour montrer que ce n'est pas lui qui les a écrits. Le chapitre 3 est un récit imaginaire qu'il dit avoir écrit dans sa jeunesse. Et à partir du chapitre 4, on va avoir des republications de textes qu'il a déjà écrits. Alors, je me souviens en 2000, quand ce texte est sorti, de mon père découvrant ce livre et disant « Mais c'est incroyable, il a republié tous ces textes comme si l'éditeur ne s'en était pas rendu compte. C'est comme si dans aucun des entretiens promotionnels de l'époque, on ne le lui dit. » Mais le chapitre 4, c'est quand même le journal du sanatorium. C'est 61 des 82 fragments de Bal Babylone. Mais mot pour mot, quoi. Donc il y a juste la tante Clara qui a disparu, la sœur Elisa qui a disparu. Il y a quelques dates qui ne correspondent pas complètement, mais c'est quand même le même texte. Et alors il va s'approprier sa tuberculeuse comme un symptôme de l'irrespirabilité de l'Espagne franquiste. Donc, il dit, c'est parce que je ne pouvais plus respirer que je suis partie. Donc le texte reprend aussi, dans le chapitre 6, un dialogue dans lequel on reconnaît la pièce « Les deux bourreaux », dans laquelle il met en scène deux frères. Donc là, c'est le seul texte où il a un frère. Deux frères, dont un qui défend son père, l'autre qui défend sa mère. Et la mère est en train d'aller verser du vinaigre sur les plaies du père qui s'est fait torturer par ses gardiens. Dans le chapitre 7, on va avoir tout le dossier qu'il découvre à la prison de Burgos, donc toutes les archives avec les lettres de la mère adressées au directeur de la prison. Dans le chapitre 8, on a donc cette décision d'immigration et ensuite toute la correspondance avec sa mère et avec un personnage qui s'appelle le capitaine Fonteiro, qui reprend certains dialogues des deux bourreaux que lui dit son frère. Donc on peut imaginer que le capitaine Fonteiro, c'est une version fictionnelle du frère de Fernando Arrabal. Alors, Fernando Arrabal a un frère qui est colonel de l'armée espagnole, ce dont en général il parle assez peu, mais c'est vrai, je l'ai vérifié. Et puis alors, dans le chapitre 9, c'est là qu'on arrive vraiment à un exil politique et à une histoire d'écrivain exilé politique, on a la lettre à Franco. C'est-à-dire que ce capitaine Fonteiro dit au narrateur, donc à Fernando Arrabal, puisqu'il s'assume comme tel, au lieu d'aller embêter ta mère et d'essayer de régler tes comptes avec elle, écris donc à Franco, c'est lui le coupable. Et là, donc, en 72, on a, donc juste après Viva la Muerte, on a une lettre à Franco, écrite par Arrabal, qui est publiée chez Bourgois en bilingue, et qui fait qu'Arrabal devient un des écrivains espagnols interdits de territoire et qu'il assume complètement d'être enfin l'héritier de son père. C'est-à-dire que, plutôt que d'être le petit garçon qui torture sa mère, voilà. Alors, l'automythologie du petit Fondo qu'on trouvait dans Belle Babylone devient peu à peu celle de l'écrivain. C'est un peu le trajet de lecture que j'ai essayé de suivre dans ces deux livres. Dans le dernier chapitre de Portée disparue, on a cette lettre adressée à la mère qui sera republiée en 2004, qui s'appelle Lettre d'amour, ou Lettre d'amour comme un supplice chinois. Et c'est une lettre magnifique. Et c'est l'ultime chapitre du livre qui finalement essaye de boucler la boucle en pardonnant à la mère son mensonge. Après s'être forgé une identité d'homme, il se façonne donc une identité d'auteur à travers sa réécriture de l'histoire familiale et de l'histoire nationale espagnole à laquelle il refuse d'appartenir. Deux exils cohabitent, celui du personnage et celui de l'auteur. Belle Babylone s'inscrit dans la douleur du premier, Portée disparue, achève d'inventer le second en lui écrivant une histoire littéraire. L'exil est d'abord, à mon avis, hors de l'enfance, dans la conscience de la tragédie, de la culpabilité des parents. On a un premier exil qui est la prise de conscience que la mère a menti, puis le départ pour une autre ville, à Ciudad Rodrigo, puis à Madrid. Enfin, la découverte du mensonge que la mère a tout fait pour que le père ne revienne pas, tout cela, celle des étapes successives de cet exil, qui finit par se concrétiser à la faveur d'abord d'une tuberculose et d'une rencontre amoureuse, puis grâce, pardon, mais je mets des guillemets, mais quand même, à une condamnation qui permet à l'écrivain d'être enfin l'héritier du père, d'être enfin de ne pas être un lâche. Et c'est par la lettre à Franco qu'il acte un exil politique qui lui vaut donc cette interdiction, mais en même temps cette reconnaissance extrême. C'est là que Arrabal devient un immense écrivain espagnol, c'est quand il écrit à Franco. Et la réconciliation avec sa mère, avant qu'elle ne meure, je la lis, moi, comme un ultime exil, comme un renoncement à la colère. Voilà, je vous remercie.